Agnès de Sarthe, bonjour.
Bonjour Bernard Lehu.
Alors on a le plaisir, le bonheur de vous retrouver avec votre nouveau roman, La chance de leur vie, publié aux éditions de l'Olivier. Pourquoi donc ce roman se passe essentiellement aux États-Unis? Pourquoi cette envie d'aller installer une fiction et cette famille de l'autre côté de l'Atlantique? D'où c'est venu?
Alors souvent quand j'ai envie de faire quelque chose et que je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, au lieu de le mettre en pratique, j'en fais un livre. Ça c'est une première chose. Donc je pense qu'il y a eu une tentation chez moi à un moment.
Ah oui.
Ben oui, je l'avoue, de partir. Mais il y avait aussi une question qui était qui me tourmentait depuis plus longtemps. J'avais remarqué, et je continue de le remarquer, que alors que la France est un pays magnifique, extraordinaire, climat, géographie, histoire, culture, sécurité sociale, etc., j'avais l'impression que les Français n'étaient pas très contents d'y être. Ils avaient l'air tous un peu moroses, ça sourit pas beaucoup, ça s'amuse pas tant que ça. Je me disais, tiens, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on est dans cet état? J'avais l'impression qu'il y avait une sorte de crise d'identité que je ne m'expliquais pas bien. Et je me suis dit que peut-être le fait d'envoyer des personnages à moi en éclaireur ailleurs et de les faire regarder vers la France, pas forcément avec nostalgie, mais avec curiosité, en tout cas avec distance, ça me permettrait peut-être de comprendre quelque chose.
Oui. C'est d'ailleurs un peu toute l'ironie de ce titre, la chance de leur vie. L'Amérique est toujours envisagée comme une espèce d'Eldorado. Et puis, la vérité n'est peut-être pas aussi simple.
Mais surtout
la chance de notre vie n'est pas toujours là où on le pense.
Surtout au moment où se déroule le roman, puisqu'il est pris dans une sorte de sandwich infernal entre, en France, l'année 2015, qui est la terrible année
des attentats.
Épouvantables attentats. Ouais. Et l'élection de Donald Trump à l'automne qui a suivi de très peu. Et donc, c'était ce moment de basculement d'une certaine manière, puisque le livre se situe à ce moment-là où l'Amérique représente encore un ailleurs possible, un idéal. On se dit, voilà, il y a eu Barack Obama et puis il va y avoir Hillary Clinton et ça continue. Et puis non. Donc, ce qui pourrait être effectivement... Alors, on sait, quand je dis la chance, quand j'écris la chance de leur vie, ça concerne à la fois les personnages, mais c'est un petit peu plus large que ça.
Et alors, il y a quelque chose d'intéressant, évidemment, dans votre roman. Enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais en particulier, alors les attentats, c'est un thème qui commence à être très présent aujourd'hui dans la fiction française. Mais vous, avec cette originalité qui est cette mise à distance, est-ce que aussi dans le fait d'écrire ce roman, c'était une façon pour vous plus facile d'aborder cette question des attentats en mettant vos personnages, en vous mettant vous-même à distance?
Oui, et c'était aussi une forme de respect, parce que quand on témoigne d'un événement dont on n'a pas directement souffert, au sens où je n'ai pas perdu les miens, je n'ai pas perdu un membre, c'était toujours par ricochet, bien sûr, c'était une époque où surtout les Parisiens, on connaissait toujours quelqu'un qui connaissait quelqu'un, etc. Mais quand on aborde un thème qui a été pas un thème pour certaines personnes, mais la fin d'une vie ou la fin d'un amour ou quelque chose d'extraordinairement tragique. Moi, j'éprouve une certaine pudeur à approcher de ce lieu sans bien signifier que je ne peux en approcher qu'en restant extérieur. D'une certaine façon, le fait d'être... les personnages sont aux États-Unis au moment du Bataclan et autres. C'était une manière pour moi de dire j'en parle, je veux témoigner de ce qui s'est passé, mais je ne peux pas faire comme si... C'est aussi beaucoup par respect.
C'est-à-dire que la distance que vous impose votre pudeur, là, vous la rendez en plus physique.
Voilà.
Et là, elle existe, elle est bien réelle et géographique. Alors, en réalité, le vrai thème ou le thème principal, le thème central de votre livre, mais comme c'est souvent le cas chez vous, c'est le couple, ce qui se passe à l'intérieur d'un couple,
oui,
d'une famille. Pourquoi ce sujet vous intéresse à ce point?
Peut-être parce que je suis mariée depuis 30 ans, mais ça ne suffit peut-être pas.
Un petit peu moins longtemps que Sylvie et Hector.
Oui. Mais parce que j'ai toujours trouvé que c'était une construction très fragile, très bancale, presque impossible à préserver et un arrangement, disons ça comme ça, qui était le plus commun, en tout cas dans nos pays occidentaux depuis quelques décennies. Et pourtant, ça ne marche pas. Mais on continue de le faire. Et parfois, ça marche. Et puis même quand ça ne marche pas, ça crée quelque chose, ça fabrique une chose différente.
C'est ce que j'allais dire, ça peut à la fois ne pas marcher et marcher.
Oui.
C'est un peu ce qui se passe ici, entre Hector et Sylvie.
Oui, tout à fait, parce que c'est un couple, ils ont une soixantaine d'années quand on les rencontre, et ils ont vécu beaucoup de choses ensemble, des drames et des choses belles aussi. Et ils ont une forme d'accoutumance l'un à l'autre, et je pense que l'accoutumance, j'utilise le terme exprès, c'est-à-dire qu'il y a aussi une habitude rassurante d'être avec l'autre et on s'est constitué avec lui, on s'est tordu autour de lui, donc on est aussi rassuré par sa présence.
Mais c'est ça moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous montrez ce qui peut menacer le couple, mais en même temps, ce qui peut l'user, mais en même temps, ce qui le rend d'une certaine manière indestructible ou ce qui le rend puissant.
C'est parce que c'est ça aussi qui me fascine, c'est cette façon qu'a le couple à la fois d'abîmer les individus qui y sont prisonniers, c'est-à-dire que chacun faisant des accommodements pour convenir plus ou moins à l'autre, pour accepter des compromis, etc. Donc c'est ce que j'appelle des déformations, on se déforme à force de vivre en couple. Et en même temps, on acquiert une sorte de puissance dont d'ailleurs on la ressent surtout quand on n'est plus en couple ou quand on n'est pas en couple et on se dit « et là je n'ai pas, et vers où je me tourne ?» Donc c'est ce paradoxe-là qui m'intéressait.
Alors là, Hector a 60 ans, arrivé aux États-Unis, il est vu par ses collègues, notamment féminines universitaires, comme l'espèce de mâle alpha, voilà, le séducteur à la française, et il va sombrer, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, se livrer aux joies de l'adultère. Mais d'une certaine manière, ce qui a été sera toujours, c'est ce que dit Sylvie à un moment donné, mais j'ai tellement d'avance sur elles toutes, donc les rivales, même si je disparaissais, si j'étais relégué, rejeté, j'aurais eu ce que personne n'aura jamais plus, 40 ans ou presque de la vie d'un homme.
Oui, c'est ça, et c'est ce qui la protège, elle. C'est cette science qu'elle a de son mari et elle décrit après avec une tendresse extrême, alors qu'elle est confrontée à quelque chose de pas très agréable, puisque c'est quand même la révélation de ses infidélités. Elle dit quand même qu'elle l'a vu vieillir et elle énumère les uns après les autres les traits de son visage, de son corps qui ont été bouleversés, qui ont été modifiés. Et elle, en tant que témoin de cette évolution, elle se considère comme garante ou comme possédant un trésor auquel personne n'aura jamais accès.
C'est un des plus beaux passages du livre parce qu'en effet, elle décrit les ravages du temps, de l'âge sur un corps, le corps de l'homme avec qui elle vit. Et au final, ça en fait une merveilleuse déclaration d'amour.
Ah oui, complètement. C'est pas du tout négatif. Chaque ride, chaque corne, chaque... pas la corne au sens vaudeville, mais...
la corne des orteils, des doigts de pied.
Chaque cheveu blanc est une victoire. Et effectivement, c'est une déclaration d'amour.
Sylvie, parlez-nous de cette Sylvie, parce qu'en apparence, comme ça, on a l'impression qu'elle est passive. Et puis, au bout du compte, c'est peut-être elle, le personnage le plus fort, en tout cas, le pivot de cette petite communauté.
Oui, parce qu'elle elle observe. Alors, c'est vrai qu'étant... Elle est relativement inactive et elle le revendique d'ailleurs. Elle est fière de cet état et ça lui laisse beaucoup de temps pour observer et essayer de comprendre ce qui est ce qu'elle fait avec le plus de talent. Alors pas forcément toujours avec de la réussite, mais elle a une attention à son mari et à leur fils adolescent. Donc il y a toujours du boulot. Hein. Quand on contemple ou qu'on observe un adolescent, on ne s'ennuie pas. Elle n'a peur de rien, ce qui est assez remarquable chez cette personne qui n'agit pas. Mais elle n'agit pas par excès de pusillanimité, par inhibition. Elle n'agit pas parce qu'elle choisit de ne pas agir. Mais elle n'a peur de rien. Elle fait preuve d'une bravoure assez remarquable.
elle n'a pas peur des tromperies de son mari.
Par exemple, par exemple, elle n'a pas peur de l'adolescence de son fils.
Alors qu'une autre compagne pourrait se sentir menacée.
Oui.
À un moment donné, un collègue, évidemment, il y a toujours dans ces cas-là des collègues bienveillants de son mari, d'Hector, vient l'alerter sur les adultères de son époux et va même jusqu'à l'emmener, lui montrer un rendez-vous galant d'Hector. Et il lui dit « Un monde sans mensonge est un monde meilleur ». Sylvie n'a pas l'air du tout d'accord. Et Agnès de Sarthe, que pense-t-elle ?
Non plus, je ne suis pas d'accord. En même temps, j'utilise
le mot mensonge exprès,
c'est-à-dire que le mot mensonge, mentir, c'est mal, le mensonge, c'est grave, etc. Donc, je le mets dans les... J'utilise ces termes-là de façon consciente, en sachant que je m'aventure dans un territoire moral un peu glissant.
Il y avait toute la charge judéo-chrétienne de la notion de mensonge.
Mais il me semblait que c'était... Pour moi, c'était plus une façon de faire écho à une passion pour moi indécente de nos sociétés, qui est tout doit se dire, tout doit être dit, tout doit être montré. Il faut tout expliquer aux enfants et il faut tout dire aux gens et il faut aller voir les personnes pour les avertir qu'on pense beaucoup de mal d'eux ou d'elles. Et ça se fait beaucoup. Et ça se fait souvent sous couvert de vertu, en disant « Écoute, je ne pouvais pas te cacher ça quand même. » Mais à qui ça fait du bien, je ne sais pas. Je crois que c'est une passion qui est une dérive, sans doute. C'est un retour de bâton par rapport à un 19e siècle qui était extraordinairement taiseux et cachotier. Mais alors, on est allé vraiment dans l'excès inverse à un point qui me paraît complètement absurde, avec le côté « dis-le, ça ira mieux ». Parfois, on le dit, c'est pire. Parfois, il vaut mieux ne pas le dire.
Le autre grand thème, évidemment, c'est la relation parent-enfant, en particulier au moment de l'adolescence, avec ce fils, Lester, qui est quand même une espèce de phénomène.
Oui, ouais, mais je pense que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tellement le choix, là, les jeunes, de devenir des phénomènes, parce que le monde dans lequel ils évoluent est tellement menaçant, bouché, promis à un avenir épouvantable et plein de dangers immédiats et lointains, que je me dis, je ne vois pas comment, ils n'ont pas tellement de choix. Soit ils sont des abrutis, soit ils sont des saints. C'est un peu l'idée que je me fais là des adolescents, comment ils vont s'en sortir.
Et donc vous en faites un saint, une espèce de saint.
Un saint abruti, il est les deux. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour un abruti pour avoir la paix. Et donc, il prétend que tout ce qu'il sait, il l'a appris dans des dessins animés, qu'il s'intéresse qu'aux jeux vidéo, etc. Mais en fait, en cachette de tout le monde, il lit Saint-Augustin, il lit Faulkner, il se pose des questions. Et puis il s'adresse à Dieu, pas mal, assez souvent.
Il crée sa petite communauté, il devient une espèce de gourou. Enfin, c'est pour des parents, et lorsque, notamment quand Sylvie et Hector découvrent ça, c'est affolant.
Affolant. Affolant parce que on est pile au moment où la passion mystique crée des ravages et le nid de la barbarie. Donc c'est épouvantable de faire cette découverte. Mais Lester, lui, ne le vit pas du tout comme ça. Il le vit comme un... Peut-être que ce qu'il fait, c'est qu'il recrée pour sa petite communauté d'abrutis comme lui, qui sont des ados en perdition, dont les parents ne s'occupent pas, qui sont tous à moitié battus, violés. Ils ne sont pas en très bon état, toutes ces petites personnes qui s'agglutinent autour de lui. Il leur crée un ailleurs possible, en fait. Il leur propose, puisque l'ailleurs n'est plus de ce monde, au sens où plus tard, c'est les catastrophes écologiques. Ailleurs, c'est nulle part, vu qu'on peut être partout en 5 minutes, virtuellement, en tout cas, très certainement. Donc, il leur propose un ailleurs, qui est un ailleurs créé à eux tous, et une forme de transcendance, quoi. Ça, c'est pas à droite, c'est pas à gauche. Regardons en haut. Alors, c'est plutôt ça. C'est plus abstrait que ce que pensent ses parents, d'une certaine manière. C'est aussi pour Lester le seul moyen qu'il a trouvé de résister à quelque chose qu'il pratique, mais dont il sait que c'est un poison, qui est la communication en flot à l'excès. Et ils se demandent comment se débattre dans cet univers où tout le monde sait tout instantanément, où on voit tout.
Ces jeunes, en effet, ce que vous appelez la génération des initiés,
ouais.
Ces jeunes hyperconnectés qui ont tout vu, tout appris, ils savent tout avant ouais. d'avoir vécu.
Ouais. Et je ne sais pas ce que ça va
c'est
donner.
C'est la menace principale aujourd'hui pour c'est... vous, pour les adolescents d'aujourd'hui.
Il y en a tellement de menaces, mais ça fait partie, ça en fait partie pour moi. Le fait qu'ils soient assaillis, qu'il n'y a pas de... C'est le contraire d'un monde dans lequel... Alors, il y avait toujours... On a enragé, combien on est à avoir enragé quand les adultes nous disaient « Ah ben ça, c'est quand tu seras grand. » Et là, il n'y a pas de « quand tu seras grand ». Et je ne sais pas comment on vit avec cette absence de « quand tu seras grand ». Puisqu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'envie non plus, puisqu'on peut déjà tout avoir. Et on peut déjà tout savoir. Et je ne sais pas à quel point on est armé psychiquement pour ça. On va se transformer. J'espère bien, parce que j'aime bien être optimiste, mais enfin, j'avoue avoir certains doutes.
Il y a du doute, de l'inquiétude dans ce livre, mais il y a aussi, comme souvent chez vous, de l'humour, un peu d'étrangeté. Et alors notamment, je ne sais pas d'où vient cette obsession, les appareils électroménagers jouent un rôle majeur oui. dans la vie d'Hector et de Sylvie. Ils sont en quelque sorte les révélateurs des adultères d'Hector. D'où ça vous vient?
Ce sont
ça,
des oracles de modernes. Ouais. Alors là, je pense que je peux le dire parce que c'est assez drôle en soi. Je me souviens que j'avais... C'est né d'une panne de machine à laver. Et il y a un plombier qui est venu. Et puis, il a résolu la panne très vite. Oui. Il a sorti une épingle à cheveux de...
Ah bon, j'ai eu peur.
Je sais. Une épingle à cheveux de qui bloquait. Et puis, comme souvent, moi, j'aime bien discuter avec les gens de leur travail. Et donc, je lui ai fait un café. Et puis, on a commencé à discuter. Et je lui ai dit, mais alors, ça doit être étrange d'entrer chez les gens comme ça. Et puis, d'aller voir dans les machines ce qui s'y passe et tout. Et là, il m'a dit, oh là là, vous n'imaginez pas ce qu'on y trouve. Et là, il m'a raconté. Et d'accord. Puis, moi, j'ai utilisé.
Est-ce que tout est puisé dans la vraie vie, ce qui se passe autour de vous?
C'est un mélange parce que j'utilise beaucoup. Alors, comme je suis très curieuse, je pose beaucoup de questions. Et si vous posez des questions, vous allez voir, on vous fait des réponses très étonnantes. Le monde est beaucoup plus étrange qu'il n'y paraît au premier abord. Donc, je pratique ça. Mais c'est des enquêtes qui n'ont aucun but. Dans un premier temps. C'est-à-dire que, par exemple, cet entretien avec le plombier, il a eu lieu il y a 15 ans. Et puis, il était relégué dans un petit tiroir mental et hop, c'est revenu. Donc, il y a ça.
Sans note, sans prise de note.
Non, sans prise de note. Non, mais j'en oublie plein. Ouais. Mais ils reviennent au moment où ils doivent revenir. Ouais. Et donc, il y a un mélange de ces micro-enquêtes que je pratique avec joie, parce qu'en plus, c'est des moments agréables et où on s'amuse bien, en fait, à poser des questions. Et puis, il y a une construction qui, elle, est beaucoup plus mystérieuse et une architecture plus compliquée qui elle, m'échappe presque complètement. Où il y a sûrement des obsessions, des relations entre les livres précédents, avec les choses que je lis par ailleurs, des questions métaphysiques ou philosophiques ou sociétales que je me pose. Après, tout le reste est assez est tellement composite que je ne pourrais pas en isoler les morceaux.
Sylvie est sauvée d'une certaine façon par la culture, par la lecture, par les livres.
Oui.
Est-ce que ça vous est arrivé, Agnès de Sarthe?
Ça m'arrive tout le temps, oui. Et d'ailleurs, quand je me demande pourquoi j'écris et ce qui me prend, et franchement, ça ne sert à rien, et je ferais mieux de faire autre chose et de me rendre utile, je pense à tous les moments où rien ne m'a mieux sauvé qu'un livre, et je me dis, les miens, je ne sais pas, mais les livres en général, ça sert quand même à quelque chose, parce que ça peut vous emmener sans violence, sans vous détacher non plus complètement de vous-même. Mais ça peut vous emmener ailleurs. Et ça me semble être très... Alors, je dis les livres, mais c'est toutes les formes que peut prendre l'art, en fait. Il se trouve que les livres, c'est mon domaine à moi. Et donc, oui, je fais cette expérience fréquemment. Et parfois, c'est même pas avec un livre en entier. Parfois, je peux lire... Je sais pas, l'autre jour, j'ai lu 4 vers d'Apollinaire. Et la journée était vraiment plus belle. C'est pas mal.
Et un titre de livre qui, à un moment donné, vous a... Alors, sauver, c'est peut-être un grand mot, mais... vous a redonné une chance dans votre vie.
Ah. je pense qu'un livre qui a été déterminant... Il se trouve que c'est un livre que j'ai traduit. Alors, je suis désolée, mais je l'ai encore plus lu que si je l'avais simplement lu. C'était un livre qui s'intitule « Les papiers de Pottermesser » d'un immense écrivain qui s'appelle Cynthia Ozick et que je remercierai jamais assez de ce qu'elle a fait pour moi et pour nous tous.
Et puis, on peut aussi lire pour se sentir un peu mieux dans notre quotidien, « La chance de leur vie », le dernier roman d'Agnès de Sarthe, publié aux éditions de L'Olivier. Merci.
Merci à vous.